Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Nous allons nous promener aujourd'hui dans Nîmes et les environs avec Jean-Jacques Salgon. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Sylviane.
Alors nous nous connaissons depuis longtemps. Vous avez écrit beaucoup de livres, donc vous êtes écrivain. Et vous avez publié donc aux éditions Le Temps qu'il fait, Le promeneur attentif, Nîmes et alentours. Vous étiez présent au Festival de la biographie, donc... Une bonne publicité pour l'édition, oui. Pour l'éditeur. Toujours beaucoup de curiosité. Les Nîmois sont très friands d'apprendre beaucoup de choses. Mais vous, ça, vous n'avez pas répondu, je veux dire, à une opportunité. Vous avez toujours été passionné, en fait, par l'histoire de Nîmes, bien que vous ayez une formation de scientifique. Ce n'est pas opposé.
Oui, puis mon intérêt déborde même le cadre de Nîmes. Il se trouve que ce livre est centré sur la région de Nîmes, sur Nîmes et sa région. Mais en fait, j'ai toujours aimé me déplacer dans des territoires inconnus,
ou connus d'ailleurs.
Et en fait, d'avoir l'œil aux aguets pour y découvrir les choses qui sont quelquefois un peu cachées, qui demandent un petit effort pour se révéler.
Voilà pourquoi c'est le promeneur attentif. Et j'aime bien aussi le piéton nîmois. J'aime bien cette idée du piéton. Souvent, le piéton, il regarde ses pieds. Non, vous regardez... souvent en l'air.
Oui, mais je pense qu'il faut... Je me suis aperçu de ça depuis longtemps, parce que je me suis aussi beaucoup baladé dans d'autres villes que Nîmes, et qu'en fait, il faut toujours lever les yeux, parce que souvent les plaques, par exemple, qui commémorent des personnalités qui ont logé dans telle ou telle maison, sont assez haut placées. Et il y a beaucoup de choses qui demandent à ce qu'on lève le regard plutôt que de regarder ses pieds. En plus, les pieds, ce n'est pas très intéressant.
On connaît ses chaussures. Grand voyageur, hein, nous nous étions rencontrés au moment de l'exposition sur l'Éthiopie, vous vous souvenez?
Oui, absolument.
C'était assez magique.
Sur Rimbaud et Soleillé.
Et Soleillé. Donc, vous avez une multiple curiosité, mais on va parler donc de ce livre que vous avez rédigé après des conditions, disons, particulières. Ça correspondait à une convalescence.
Oui, j'ai eu un grave problème de santé pour lequel... j'ai reçu une greffe de moelle et donc ça m'a demandé quand même 2 mois ou 3 mois d'hospitalisation. Ensuite, une convalescence assez longue et j'étais très affaibli. Et j'ai en fait compris que c'était le moment de me remettre à marcher pour récupérer un peu de vigueur. Et comme je dis dans le livre, j'ai répondu à l'injonction christique, lève-toi et marche.
Voilà. Donc vous dites ça en toute humilité, mais ça a été un grand moment difficile, hein, je me souviens de cette époque. Et vous pratiquiez la marche quotidienne avant la maladie.
Oui, j'ai beaucoup marché à la fois au cours de mes voyages, mais des randonnées aussi dans la nature, ça, je continue à le pratiquer. J'ai aussi circulé en vélo. Par exemple, le livre que j'ai fait sur La Rochelle, je l'ai fait en partie en vélo. Et je me suis aperçu qu'on ne voit pas les mêmes choses à vélo et quand on marche. D'accord. Et surtout, on ne déclenche pas les mêmes réactions chez les gens. Quand on est en vélo, c'est tout à fait, bien reçu par les gens qui vous voient passer. Quand on est à pied, c'est plus inquiétant dans certains quartiers des villes parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il vient faire là? Est-ce que c'est un agent immobilier? Alors à Nîmes, je me promène à pied essentiellement parce que je ne fais plus tellement de vélo. Et puis ça me plaît de marcher. J'ai un parcours c'est le premier...
Alors la première partie, il y a 3 parties. Hein, il y a la promenade.
Ouais.
Ensuite, il y a Véredem et Agidios, que je trouve la partie la plus... La plus difficile.
La plus
sévère.
Ben, c'est 2 ermites, c'est pas très...
c'est pas très rigolo.
Non.
Et puis, cette curiosité, énormément de détails. Hein. Donc, vous sautez de l'histoire à la géographie, à la religion. Donc, ce livre, il est un peu inqualifiable. C'est pas un guide touristique, c'est pas un livre poétique, c'est pas un roman, c'est...
J'espère qu'il y a un peu de tout ça, quand même.
C'est pour
un peu
ça.
De poésie, un peu d'histoire, un peu de géographie. Et
Et le visuel que vous avez choisi, qui est très connu, bien évidemment, en première page, attire bien sûr l'œil. On la voit dans la mairie de Nîmes. Dans
oui,
de la mairie
absolument, de Nîmes. Il y a une reproduction.
Une reproduction, et puis l'original est au carré d'art.
Oui.
Et ce titre, vous l'avez... Qui est-ce qui l'a trouvé, le promeneur attentif?
Alors, pour l'image d'abord, c'est mon éditeur qui a choisi l'image. Ils ont souvent carte blanche pour les couvertures. Et donc, j'ai eu connaissance quand il a fait la maquette. Il n'y a eu aucun échange à ce propos. Pour le titre, je dois remercier infiniment Bernard Wallet, parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à trouver les titres de mes livres. En général, j'ai du mal. Et donc, je lui ai... Bernard Wallet, qui vit à Nîmes et qui est le conjoint de Lydie Salvert,
qui
est installé aussi à Nîmes, a été éditeur. Donc, je lui ai demandé de lire le manuscrit et de me trouver un titre. Et c'est lui qui a trouvé le promeneur attentif. Apparemment, il fait l'unanimité.
Oui, oui, c'est très beau. Et moi, j'aime bien aussi... Promeneur, attentif,
voilà.
C'est mieux que piéton. Hein,
voilà.
C'est
mais il y a le paysan de Paris aussi, dans le style de titre aussi, où Aragon raconte ses promenades dans Paris.
Oui. Alors justement, il y a énormément, je l'ai dit, d'allusions historiques, il y a énormément aussi d'allusions littéraires. Et je vais commencer par la première partie, qui est la promenade. Et vous avez découvert que vous habitez dans une maison qui a été habitée par un illustre personnage. Vous avez découvert cela.
Oui, alors c'est assez étonnant parce qu'en fait, donc au cours de mes promenades rituelles nîmoises, qui consistent à faire une boucle absolument identique chaque jour.
Vous habitez rue Carte.
Voilà, je fais le tour par la rue du Cirque Romain, le boulevard Jean Jaurès, les jardins de la Fontaine, je reviens par le canal. Enfin bref, je ne vais pas donner tout le détail. Mais
c'est
en
très
fait,
agréable, c'est très beau.
Quand je traverse les jardins de la Fontaine, il y a deux statues de poètes, Jean Reboul et un autre qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle Antoine Bigot, et qui était un poète occitan, même... Il prétendait que son patois n'était pas vraiment de l'occitan, mais c'était le patois nîmois, c'était encore plus précis. Et en fait, je me suis évidemment interrogé sur ce personnage dont je voyais la statue pratiquement tous les jours.
Il y a une rue, il y a une
voilà.
rue.
Et il y a effectivement une rue, comme il y a une rue Jean Reboul. Et en fait, en faisant des recherches sur Internet, je me suis aperçu qu'il habitait rue Carte. Après, j'ai creusé un peu plus et je me suis aperçu que c'était au numéro 8, c'est-à-dire la maison que j'occupe actuellement.
Voilà.
C'est-à-dire que l'escalier, cette maison a été transformée, je pense, depuis l'époque, parce que c'est une maison du 19e. Et l'escalier, qui est en pierre ancienne et assez usé, a été foulé par les pieds d'Antoine Bigot et certainement de Frédéric Mistral, qui était un de ses amis.
Donc, vous baignez dans cette atmosphère. Il vous inspire peut-être par l'esprit, constamment.
Oui, c'est les rencontres de hasard. Et en fait, je préfère effectivement habiter dans la maison d'un poète que d'un militaire. Voilà. Quoique, je n'ai pas d'hostilité générale envers les militaires, mais ça me fait plus plaisir d'être dans la maison d'un poète.
Alors, la première partie, donc, c'est votre promenade avec énormément de détails et cette acuité visuelle. Regardez, c'est peut-être la partie qui plaira peut-être le plus au pur nîmois. C'est-à-dire, ça donne énormément de renseignements sur Nîmes. Mais on va passer à la seconde partie. On va suivre l'ordre de votre livre, qui est, je le dis, un peu plus difficile, et vous en convenez. Et avant, on va faire une pause musicale. Il y en aura deux. La même chanson en espagnol et en français, par un homme et une femme. On va commencer par en espagnol, parce que la chanson a été créée en espagnol. C'est une histoire d'amour. Alors pourquoi vous avez
choisi d'un amour.
Histoire d'un amour.
Voilà. Alors c'est une chanson que, figurez-vous que l'autre fois je me baladais dans Nîmes, on revient toujours à mes promenades nîmoises, et j'entends il y avait une peña qui jouait dans la rue Fresque, et elle jouait cet air, et c'est un air que j'aime beaucoup, donc je me suis réintéressé à cette chanson, et je me suis aperçu il y a une émission de 1h30 sur France Culture qui lui est consacrée, qui est très intéressante, que je recommande d'ailleurs aux auditeurs. Et en fait, il y a même Jean-Luc Nancy qui donne des interprétations sur cette chanson. C'est une chanson qui a été écrite en 1955 par un auteur panaméen, donc en espagnol, et qui ensuite a été traduite 2 ans plus tard, en 1957, pour Dalida. Et la traduction a été faite par Francis Blanche.
Alors avant, je signale que Francis Blanche est un grand auteur et j'avais découvert lors d'un concert des Volks à l'hôtel Boudon il a écrit le texte sur le carnaval des animaux.
Oui.
Vous découvrirez.
Merci
découvrirez-le.
De m'apprendre ça.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí era obsesión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Alors, sur Radio Alliance Plus, toujours avec Jean-Jacques Salgon, nous passons à la deuxième partie, Véredem et Egidios. Vous dites comme ça, Egidios ?
Egidios.
Egidios.
Oui.
Alors, deux ermites, hein, 1300 avant Jésus-Christ. Donc, comment vous reliez, enfin, je le sais, j'ai lu le livre, mais comment vous reliez cette deuxième partie à Nîmes ? Et entre Nîmes et l'Aqueduc, le pont du Gard ?
Écoutez, en fait, j'ai marché pas seulement dans Nîmes, je suis allé aussi dans les alentours, et en particulier, j'ai découvert ce site magnifique de la grotte de la Baume sur le Gardon, où il y a une chapelle dédiée à Saint Véredem. Donc, ça m'a intéressé de connaître un peu plus de l'histoire de ce ermite. Et j'ai fait des recherches et je me suis aperçu qu'il était grec, qu'il arrivait de Grèce en bateau, conduit par des commerçants marseillais jusque sur le delta du Rhône, ensuite qu'il remontait vers les Alpilles. Enfin bon, j'ai décidé de refaire un peu tout son trajet à pied avec beaucoup d'imagination, parce que peu de documents existent. C'est un ermite du 7e siècle, il y a très peu de documents.
Et c'était quelque part aussi simplement de la curiosité, ou est-ce qu'il y avait une forme de quête spirituelle ? Vous avez dit que vous avez une très grave maladie. Est-ce que c'était une façon de... Oui, un spirituel ?
Si ça l'était, ça devait être de façon inconsciente. Mais c'était plus le personnage historique, un peu, pour moi, encore plus exotique du fait que non seulement il était grec, mais que je suis athée et que c'était quelqu'un qui cherchait Dieu, ce qui est quand même particulier. Et en même temps, je savais que j'allais passer par des endroits magnifiques en suivant son trajet, parce que les Alpes, c'est des régions formidables. Et puis, j'ai imaginé son trajet après, depuis Saint-Romand, qui est une abbaye très ancienne, extraordinaire, rupestre, jusque sur le Gardon. Donc, ça m'a fait traverser des campagnes qui ne sont pas forcément parcourues par les touristes ou les marcheurs.
Oui, on sait bien que les touristes et les marcheurs suivent aussi pour protéger la nature. Hein. Il faut
pas que
tout le monde s'égaille un petit peu partout. Ouais, on voit dans les calanques de Marseille, c'est balisé, pour que les gens n'aillent pas, partout.
Oui.
Et vous marchez en solitaire, tout seul ?
Je l'ai fait très souvent seul et quelquefois accompagné par des amis. Surtout dans la partie qui est... c'est plutôt pour la troisième partie, c'est-à-dire celle qui concerne l'aqueduc.
L'aqueduc, de tout.
Parce que là, il y avait des endroits qui sont assez escarpés et un peu dangereux, même parce que si vous arrive quelque chose...
Il vaut mieux être en sécurité.
Le téléphone capte mal. Bref, je l'ai fait... je préférais être avec quelqu'un.
Il faut rester prudent. Est-ce que vous croyez que Véredem, vous parlez de la nature, du paysage, de la lumière, est-ce que vous croyez qu'il s'intéressait justement à cette lumière, à cette nature, ou c'était simplement l'isolement qu'il recherchait ?
Non, je pense qu'il y avait un lien certainement avec la nature, avec le ciel, avec les vibrations de la lumière, avec tout un tas de choses qui peuvent évoquer la divinité. Et de ce côté-là, je peux partager... c'est pas forcément une quête spirituelle, mais une émotion.
Une émotion.
Une émotion poétique, une émotion humaine de vendre les spectacles de la nature ou des manifestations de la nature.
Et puis des monuments hein, aussi, des églises, oui. Puisque...
Mais à l'époque de Véredem, il n'y avait pas grand-chose.
Oui, hein. Mais actuellement.
Oui, actuellement.
Actuellement, donc
mais
vous...
donc, il y a des chapelles, effectivement, qui ont été construites pour célébrer sa mémoire, sur ce qui semblerait être son trajet. Donc, il y en a une à Aiguières, il y en a une, un autre village qui est de l'autre côté des Alpilles, et une troisième à Pujaut, près d'Avignon, parce qu'il a été évêque d'Avignon.
D'accord.
Et donc, voilà, il a
mais
été...
c'est pas une route de pèlerinage, c'est
pas
vraiment
du tout.
Pour les curieux comme vous.
Oui. Mais moi, j'évite par exemple, le chemin de Saint-Jacques, c'est très bien, mais c'est devenu une autoroute hein, quand même. Piétonne.
Et puis, on peut pas parler de cette seconde partie, même si c'est pas du tout la même époque de Saint-Gilles. Hein. Je pense qu'à Saint-Gilles, on ressent quand même des ondes absolument.
Ah ben, c'est-à-dire à Saint-Gilles, il reste son tombeau et puis sa dépouille. Donc, en fait, il y a cette abbatiale absolument splendide.
C'est de plus en plus renommé.
Il y a eu d'énormes travaux de rénovation qui ont été très réussis.
Quand je suis arrivée il y a 15 ans dans la région.
Elle était complètement à l'abandon. Ils ont bénéficié du classement à l'UNESCO qui a permis de faire des travaux qui coûtent assez cher. Et c'est vrai qu'elle a repris vraiment beaucoup d'allure depuis qu'elle a été restaurée. Et en particulier le tympan qui est inspiré de ce qu'on appelle le roman antiquisant, c'est-à-dire que ces architectes de cette époque s'inspiraient des monuments romains. Donc là, on revient à Nîmes.
C'est une boucle que l'on boucle, en fait. Oui, et on va le voir pour l'Aqueduc, hein, puisqu'en fait, on part de Nîmes jusqu'aux sources de l'Eure et on revient. Donc c'est 50 km à peu près. Oui. Intense. Donc, je vous ai présenté comme écrivain, formation scientifique, mais vous êtes aussi un historien. Hein. L'historien chercher, aime fouiller.
C'est-à-dire que l'histoire m'intéresse, c'est-à-dire j'aime voyager dans le temps, en fait. Je voyage dans la géographie, mais aussi dans le temps. Mais je n'ai pas de formation d'historien, donc j'ai toujours la crainte de faire des bourdes, donc je me documente beaucoup. Et là, je dois dire que j'ai rencontré, par exemple, un archéologue nîmois, qui m'a permis de contrôler certains aspects de ce que je pouvais sujet que je pouvais aborder et en fait voilà et...
tout est véridique, tout est vérifié.
J'essaie d'être dans la vérité scientifique.
Bien sûr.
Puisque j'ai eu cette formation donc ça m'a donné ce goût
de la rigueur.
Ouais.
Alors nous avons beaucoup parlé de l'Aqueduc parce que bien sûr Nîmes et les alentours on ne peut pas ne pas parler du pont du Gard, mais il y a plein d'autres aqueducs souterrains ou dehors, il y a plein de restes, et vous avez fait tout le chemin, vous avez tout vu.
Alors tout, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas beaucoup de choses.
Tout ce qui reste à peu près. Tout.
J'ai certainement raté deux ou trois vestiges qui sont dans des propriétés dans lesquelles je n'ai pas pu rentrer.
Oui, parce que vous racontez justement dans cette troisième partie les belles rencontres. Hein, il faut avoir l'autorité.
Oui,
c'est un peu comme pour, je me souviens, Rimbaud, le nom m'échappe, à la ville de Rimbaud, Charleville-Mézières, où vous aviez aussi
j'ai fait des rencontres hasardeuses qui étaient favorables, disons, dieux m'envoyaient les bons personnages.
Alors, on va écouter la version en français.
De Dalida, oui.
Donc, Histoire d'un amour, cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et on va vivre un petit peu la différence, justement, de rythme.
L'histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace.
sur Radio Alliance Plus, donc la troisième partie du livre de Jean-Jacques Salgon, Le promeneur attentif Nîmes et alentour. La troisième partie, vous l'avez compris, on en a parlé très
souvent. On l'a abordé déjà. Oui.
Abordé. L'aqueduc, j'aime beaucoup l'exergue que vous avez mis de Patrick Tudoret en marchant. La marche est un fastueux déploiement de lenteur et de silence. Donc, vous partez, la première phrase, c'est le jardin de la maison de mes grands-parents. Maternelle, oui. S'étager en une succession de terrasses, etc., etc., oui, oui. etc. Donc, vous êtes un enfant du Sud.
Oui, je suis né en Ardèche, donc j'ai connu une enfance rurale. Alors, à propos de l'aqueduc, il m'est arrivé une histoire assez, très récemment, là d'ailleurs, qui m'a ravi, parce qu'on adore ce genre de rencontres comme ça, littéraires. Je relisais les confessions de Jean-Jacques Rousseau, et à un moment, il parle de l'aqueduc.
Ah bon ?
Oui.
Dans les confessions ?
Oui, quand il est enfant, il est chez son précepteur en Suisse, et son précepteur plante un figuier sur la terrasse de leur maison. Et lui, avec son cousin, il a l'idée de planter un deuxième arbre, qui est un saule, et qu'il plante à 5 mètres du figuier. Et il raconte dans les confessions qu'il veut que ce soit relativement bien arrosé, mais il ne veut pas qu'on le voit là arrosé. Donc, il construit avec son cousin, il s'emploie à construire un petit aqueduc souterrain qui part de l'endroit où il y a le figuier, qui va être arrosé par le précepteur, et qui va conduire l'eau discrètement vers leur sol. Et je me suis rappelé à ce moment-là, en lisant ce souvenir de Rousseau, qui s'appelle
Jean-Jacques. Que vous aviez fait de même.
Que j'avais fait de même, et que j'ai même écrit un texte dans mon premier livre, 07 et autres récits, publié chez Verdier.
Sur l'aqueduc.
Voilà, alors si je peux, je...
Bien sûr, et vous ne vous appelez pas Jean-Jacques par hasard, en fait.
Non, parce que en fait, mon père, qui était un grand républicain et admirateur de la Révolution et des Lumières, m'avait trouvé ce prénom.
Voilà. Donc voilà, il y a Bigot, vous habitez dans la maison de Bigot, voilà. Et vous vous appelez Jean-Jacques comme Jean-Jacques
Rousseau. Oui, et Rousseau est venu visiter d'ailleurs le pont du Gard aussi.
Ouais. Alors, on vous écoute lire ce petit texte.
Alors, c'est dans 07 et autres récits, qui est un ensemble de petits textes sur mon enfance. Le petit jardin, l'enfance consistant à faire en petit ce que les adultes font en grand, j'avais contre le mur mitoyen des cours de devant, confectionner un jardin d'agrément qui ne devait pas couvrir plus de 2 mètres carrés. Et pour rester dans de bonnes proportions et ne pas avoir à fournir la même quantité d'énergie que mon père qui passait ses soirées à charrier des arrosoirs, j'avais conçu un ingénieux système de rigole qui, depuis la borne fontaine, acheminait le surplus d'eau jusqu'à mes plantations en passant à travers les branches basses d'un buisson ardent. Ces rigoles, en partie souterraines, se dérobaient au regard, de sorte que si mon père s'était tant soit peu intéressé à mes lubies, il eût été bien intrigué de voir croître et s'épanouir des fleurs que l'on n'arrosait jamais. Mais que faire d'un jardin d'agrément de 2 mètres carrés ? Je n'étais pas le nain qui pourrait s'y cacher. Il était sans emploi, ne nécessitait aucun soin, et dissimulé derrière le massif de rosiers, personne ne le voyait. C'était un jardin pour rien, né d'une idée superfétatoire, avec des fleurs, violettes ou pervenches, qui n'étaient pas cultivées, mais n'étaient plus sauvages. Une image réduite du destin humain en somme.
Merci pour cette lecture et... Je lis la dernière phrase du livre et de la troisième partie sur l'aqueduc, parce que vous parlez de l'enfant qui a construit cet aqueduc, et la dernière phrase, c'est « L'enfance ne reviendra pas, d'ailleurs elle n'a pas à revenir, elle est toujours là ». Donc ouais. Malgré la connaissance, malgré les années, malgré les épreuves, malgré tout, on reste un éternel enfant. Quand vous marchez, vous avez l'impression d'être tout jeune.
J'ai eu la chance aussi de marcher là pour l'exploration de l'aqueduc dans des zones qui étaient des zones de paysages humanisés, agricoles, assez déserte d'ailleurs, parce qu'on n'a pas un grand monde qui se promène dans ces coins, et qui n'était pas très différente de ce qu'était la campagne de quand j'étais enfant. Donc j'avais l'impression de, voilà, de marcher à travers ma propre enfance.
Alors, dans le livre, vous partez du Castellum pour arriver aux sources de l'Eure.
Aux sources de l'Eure, oui.
Vous conseillez de faire dans quel sens pour nos auditeurs qui se disent « Ah, je vais lire le livre ». Je vais essayer de comprendre le cheminement. Bon, il y a beaucoup de plans maintenant. Dans quel sens vous le conseillez de faire ce cheminement? Pas en une seule fois. Hein, il faut
moi, je l'ai fait en plusieurs fois, bien sûr. Bien sûr. Fait 50 km, donc bon. En fait, je crois que c'est à chacun de voir. Il n'y a pas de sens plus prégnant ou plus
selon la lumière, peut-être, selon le soleil.
Ouais. Ça, c'est plutôt l'heure de la journée. Mais en fait, moi, j'ai aimé remonter le cours de l'eau parce que j'ai aussi écrit un livre sur La Rochelle qui s'appelait « Les sources du Nil » où je remontais un ruisseau qui traversait la ville de La Rochelle pour retrouver ses sources. Et l'idée de remonter le cours de l'eau, d'aller vers l'origine, en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Et « Sources d'heure », évidemment, ça fait penser aux sources du temps. Et voilà, et donc il y avait toute une dimension un peu symbolique aussi dans ce trajet à l'envers. Et je pense aussi au troubadour Arnaud Daniel qui dit qu'il nage à contre-courant. Il y a un petit poème où il dit qu'il nage à contre-courant.
Alors, on n'a pas le temps ici, et puis il faut prendre le temps de noter. C'est bien d'avoir une carte, moi, je trouve, quand on lit votre livre, comme ça, on
Alors ça, oui, mais je pense que tous les gens peuvent se référer à des cartes bien sur sûr. Internet maintenant. Donc,
et c'est vraiment très, très pratique. Moi, ça a été une très belle découverte quand je suis arrivée, m'installer à Nîmes, parce que je connaissais le Pont du Gard, mais je n'avais absolument pas imaginé qu'il y avait des morceaux d'aqueduc ailleurs, souterrains. Et celui de Cernac m'avait beaucoup impressionné.
Oui,
vraiment.
Celui de Cernac est connu, mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai rencontré là, dans Nîmes, tout près d'ailleurs du Castellum, un tronçon de 17 mètres qui est dans une maison, chez un particulier, qui m'a ouvert ses portes et qui fait 17 mètres de long, 14 mètres de long, pardon, et qui est aménagé en cave et qui est parfaitement conservé. C'est le seul élément d'aqueduc dans ces parties souterraines et nîmoises, qui soient intactes.
Bien, merci beaucoup, Jean-Jacques Salgon. Donc, je rappelle le livre Jean-Jacques Salgon, Le promeneur attentif, Nîmes et alentour, aux éditions Le Temps qu'il fait. On trouve dans toutes les bonnes librairies. Continuez de marcher et de nous rédiger de beaux livres. À bientôt.
Oui, merci, merci Sylviane. Avec les gens.